C'est une belle saison, c'est la saison de l'amour humain où il est célébré de façon la plus ordinaire et la plus merveilleuse qui soit. C'est la période des mariages, c'est cette belle période qu'est le mois de juillet. D'ailleurs, on va bientôt fêter Sainte Marie-Madeleine, une des icônes de cet amour humain consacré à Dieu. Il est beau de voir ici, mais le thème, c'est le berger, Jésus berger. Là, il est beau de voir cette compassion du Seigneur lorsqu'il voit cette foule qu'il a déjà entendue, qui a déjà bénéficié de ses grâces et qui en veut encore, qui en veut toujours plus, quoi. Et alors, il y a ce beau regard, ce regard du Seigneur qui ne se lasse pas au moment de notre vie terrestre de nous contempler avec compassion. Et il contemple ainsi tous les hommes, quel que soit leur comportement. Mais du moment qu'il y ait en eux, eh bien, un premier pas, un mouvement pour rechercher le remède au non-sens, le remède aux ténèbres, le remède au cercle qui n'en finit pas. Et ces hommes, ces femmes qui sont partis à pied pour venir l'entendre encore et encore, eh bien, ceux-là sont l'objet de sa compassion. Et en ce monde, eh bien, il en est de même. Tous ceux qui recherchent vraiment la vérité, qui recherchent vraiment l'amour en notre monde, la justice et toutes les autres vertus, bien sûr, eh bien, même s'ils n'ont pas la force, le discernement ou les capacités, l'opportunité de découvrir la solution, eh bien, le Seigneur est là dans sa providence et vraiment il les regarde avec compassion, donc avec amour, parce que la compassion c'est un regard d'amour, c'est pas du tout un regard de pitié lointain et dédaigneux. Et forcément, il vient à leur secours. Donc, Jésus a de la compassion pour tous les hommes, il est vrai, mais cette compassion finalement n'est saisissable recevable que par ceux qui sont en recherche du sens de la vie et de la vie elle-même finalement. Et la vie rime avec vérité et avec amour. Dans le texte d'Isaïe, les bergers, là, c'est pas seulement le monde religieux de l'époque, c'est les rois, c'est les nobles, c'est tout le pouvoir politique et pas seulement religieux, parce qu'à l'époque ils étaient confondus. Mais voilà, ce qu'Isaïe reproche à ces bergers-là, c'est d'être des guides aveugles, des guides sans lumière, des guides sans aucune valeur à proposer aux autres. Même lorsqu'ils n'essayaient pas de tout accaparer pour eux, ils demeuraient les mains vides. Il est beau de voir aussi que l'État moderne, ça culmine dans le marxisme, hein, c'est lui qui a réalisé ça. Eh bien, on est revenu, vous voyez, c'est le mouvement de l'accordéon. Donc, dans l'Antiquité, il n'y avait pas la haute Antiquité, hein, dans cette haute Antiquité, il n'y avait pas de distinction entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Et voilà qu'avec le marxisme, à nouveau, l'éthique, eh bien, devient politique, l'éthique, donc la morale, redevient quelque chose qui dépend de l'État. C'est assez rigolo de voir tous les paradoxes de la modernité qui veut s'affranchir du religieux et donc de la transcendance du religieux et qui finalement ne peut qu'imiter le religieux pour y parvenir. Ces idéologies modernes que nous connaissons, qui ont été écrasantes, n'ont pas été des lumières pour l'humanité. Et le monde qui est sorti de toutes ces idéologies que nous avons connues, c'est le nôtre. Un monde totalement nihiliste, sans aucune valeur, sans aucun berger. Ça, c'est clair. Et ce qu'il nous reste dans ce monde-là, c'est la capacité de rechercher, de désirer la vérité et de désirer l'amour. Donc, comme je le disais, l'été, c'est la saison vraiment de l'amour humain dans sa plénitude. Et il peut être suffisant s'il est bien entretenu parce qu'il a échappé au naufrage du péché originel, il a été blessé, cet amour humain, il ne suffit plus à changer le monde. On ne change pas un monde qui ne veut pas de l'amour avec sa bonne volonté, avec son bon cœur. En revanche, il est possible de faire alliance avec d'autres êtres qui partagent la valeur de l'amour. Et dès lors, de se faire une place heureuse en ce monde, c'est toujours possible ça. Mais c'est toujours en dehors du monde, c'est à l'écart. Comme Jésus avec ses apôtres, là, il veut les amener à l'écart. Et là, l'amour humain a encore assez de force, je dis bien s'il est entretenu au long de la vie, par la réciprocité, par les sacrifices nécessaires aussi de son ego, on peut. Mais il ne suffit plus à changer le monde, et cela depuis le commencement du monde, depuis qu'Adam et Ève ont été chassés du paradis terrestre. Or, le bonheur, nous sommes faits pour ça. Mais le bonheur, il n'est plus à notre portée. Et il consiste, le bonheur, en une connaissance. Une connaissance de la source de notre être et de sa destination. Nous venons de Dieu, nous devons retourner à Dieu. Et cette connaissance réellement apporte le bonheur. Nous vivons donc, je le disais, dans un monde désormais nihiliste, un monde qui est totalement empirique, qui ne croit que ce qu'il peut vérifier et qui ne met sa confiance finalement que dans la matière, dans le corps et sa joie aussi. Et donc il ne trouve pas le bonheur. Beaucoup d'incroyants le recherchent, mais là où il ne faudrait pas. Et là où, quand on recherche le bonheur où il ne faut pas, la compassion du Christ n'est pas à notre portée. Il faut dépasser les idoles de ce monde, et c'est une obligation stricte. Alors on trouve la compassion. Il faut faire comme Moïse, il faut aller faire paître son troupeau au-delà du désert. Le désert, c'est encore le lieu des pâturages ordinaires. Il faut dépasser cette limite-là, il faut vraiment aller dans l'inconnu. Et l'inconnu, c'est l'objet de cette recherche de la vérité et de l'amour. Beaucoup d'incroyants, donc, recherchent ce sens de la vie, cette plénitude de vie, et ne la trouve pas parce que, par principe, par conditionnement, des conditionnements acceptés, ils refusent l'hypothèse de la transcendance et ne veulent pas rechercher de ce côté-là. Donc, on préfère oublier la question qu'on ne peut pas résoudre, et l'oubli, c'est toujours ou l'ivresse ou la routine, c'est les deux voies de l'action humaine. Soit on s'enivre parce qu'on prend, soit la routine nous fait dormir. C'est comme ça que ça fonctionne. Et une vie qui fonctionne ou par ivresse ou par routine, est une vie vide ou vraiment très vide. On ne peut pas trouver le bonheur dans ces conditions-là. Alors Jésus donne la vie aux hommes, c'est ce que l'Église proclame, et il nous permet, comment ? Pas en l'écoutant, en le regardant, donc ça veut dire prier, ça veut dire écouter sa parole, comme maintenant, recevoir ses sacrements. On refait exactement ce que les foules vivaient il y a 2000 ans. Il est dit chez Marc, justement, que Jésus prêcha et que là, il fit beaucoup de guérisons et il chassa beaucoup de démons. Ce n'est pas toujours en imposant les mains, ou l'imposition des mains en tout cas confirmait ce qui avait déjà accompli, comme pour la guérison de l'hémorroïde, déjà guéri, mais Jésus confirme. C'est l'enseignement même du Christ. Quand on écoute son enseignement, ça peut être les mots physiques, bien sûr, mais ça peut être les mots de l'âme. C'est ce que l'exorcisme désigne, la maladie de l'intériorité. Vous voyez, il y a des tas de gens dans notre monde moderne qui fonctionnent très bien matériellement, qui a tout pour fonctionner très bien matériellement, mais il y a des gens qui sont... Il y a plein de cas de dépression, de mal-être sous toutes ses formes, de déséquilibre, de frustration continue qui font faire des actes complètement impensables. Tout ça, tous les gens sont comme énervés, cette colère qui gronde sans cesse, les gens ne sont pas heureux, même s'ils sont parfaitement en bonne santé physiquement. Ça ne suffit pas, c'est ça la possession. La possession, c'est cet état d'âme intérieur troublé, ténébreux, qui ne permet pas d'être heureux tout simplement. Et à l'écoute de l'Évangile, en voyant Jésus là, vivre pleinement, il l'incarne lui l'Évangile, en le voyant nous le montrer matériellement, physiquement, cet Évangile, eh bien, toute cette obscurité s'en allait d'elle-même. Et elle est bien d'origine ténébreuse et elle partait. Et de même pour tous ces mots qui pouvaient éventuellement, il y en a beaucoup, hein, qui proviennent de la façon dont on les gère, les maladies psychosomatiques, c'est souvent notre manière de vivre, donc nos déséquilibres qui en génèrent beaucoup. Quand on écoutait Jésus, on oubliait tout ça, on oubliait même de manger. C'est incroyable pour des êtres humains, hein, ça. Ben si, on pouvait écouter Jésus en oubliant d'avoir faim. Parce qu'on avait une faim qui était située ailleurs, et une fascination, une ivresse qui était complètement transposée dans le monde de la vie et de la vie pure. Alors, demandons au Seigneur, émerveillons-nous de sa présence. Il faut vraiment lui consacrer sans cesse notre vie, lui demander de nous renouveler intérieurement. Donc, cette belle période de l'été, qui est une saison de l'amour, eh bien, qu'elle soit aussi, pas seulement une saison de l'amour humain, mais une saison de l'amour divin. Qu'elle nourrisse, comme le disait la prière de conclusion, là, au début de la messe, qu'elle nourrisse notre foi, notre espérance et notre charité.